Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit, les 20 ans de l'Afterfoot, en direct de Valence.
Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit avec vous tous, il est 23h20, toujours en direct du cinéma Pathé de Valence, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riouleux, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, RMC a dévoilé aujourd'hui son dispositif pour la Coupe du Monde. Donc oui. Vous qui écoutez la
conférence de presse, disons.
Soyez attentifs parce que la Coupe du Monde arrive.
Par JC Drouet.
Toujours bon pour animer.
Formidable. Il a fait une très bonne blague pour Flo au début quand même.
Ah, il a fait une référence à Michou.
Il a dit voilà, vous attendez peut-être à ce qu'on parle de Michou parce que voilà, ça a été un peu le buzz sur M6 puisqu'il sera là. Et il dit non, au dopo à la limite, on peut vous parler de Tiramichou.
Mais c'est... Exact.
Et ça, c'était une très bonne vanne, non?
Bah, pour JC, bien sûr. Oui, quand même.
Okay. C'est du niveau de Casar, quoi.
Et de Flo.
Ah, moi, je dis que c'est bien tenté.
Flo, il valide,
moi, je pense. C'est bien tenté, je valide, bien sûr.
JC est capable de faire beaucoup mieux.
Donc, la Coupe du Monde, c'est dans un mois, mine de rien. Ça commence à frétiller, là. Donc, tous les matchs sur RMC.
Oui.
Nuit de l'after jusqu'à 5h du matin.
Tous les matchs, quelle que soit l'heure du match, effectivement.
Quelle que soit l'heure du match, voilà. Parce qu'il y a des matchs en pleine nuit, notamment le fameux Argentine-Algérie qui est en pleine nuit, 3h du matin.
Nous, sur place, déjà.
Voilà, nous sur place.
Sur place, exactement. 10 reporters qui vont commenter les matchs sur place, faire du reportage, remonter les infos, notamment sur l'équipe de France. Et donc,
est-ce que le Faucon installé à New York pour toutes les infos bleues.
Ah bah bien sûr, le Faucon, il a été mis sous pression aujourd'hui.
Et une radio digitale 24/24.
Exactement.
Donc, d'où le slogan 32h sur 24.
Ben, j'ai pas bien compris le calcul. Karim Nedjari, notre directeur général.
Il a fait ci, il a fait la radio digitale plus la radio, plus les 8h.
Je suis pas sûr qu'il ait bien compté pour autant.
Bon, voilà. Donc vous aurez tout sur RMC, quelle que soit l'heure, vous aurez tous les matchs.
Et deuxième partie de la Coupe du Monde où on sera, on dit ça pour le public qui peut venir, où on sera au restaurant de l'After d'Oppo, la deuxième partie de la Coupe du Monde pour toutes les émissions sur place.
On a avec nous Aymeric et Jérémy, supporters du PSG. Aymeric, bonsoir.
Bonsoir.
Jérémy, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous commencez à compter les jours, les gars, là?
Ah, là, ça approche, ouais.
19 jours?
On est tendu, là.
C'est vrai?
Oui.
Bah, déjà?
Pourquoi tendu?
Ah bon?
Non, on sort.
Hein. Franchement.
Est-ce que vous tentez d'avoir des places, déjà?
Franchement.
Ah, aujourd'hui, encore une belle initiative du PSG, puisque j'en parlais tout à l'heure. Le package est sorti, 300 balles.
Ah oui, je peux, ouais.
300 balles, avion, hôtel, billet. Honnêtement, j'imagine qu'il ne va pas y en avoir pour tout le monde, mais les chanceux qui vont tomber là-dessus, c'est formidable.
Même très belle initiative.
Oui, c'est pardon ça, c'est pour le CUP.
Pour le CUP.
Ah, ils vont en profiter.
Il faut être membre du CUP pour bénéficier de ça.
Oui.
Bon, après, c'est des gens qui sont au stade.
C'est logique aussi, ils ont fait tous les déplacements.
On vive le stade. Moi, ça me suis pas scandaleux. Enfin, je sais pas, ça te plaît pas comme stratégie? T'es contrarié?
J'avais pas trop les moyens d'y aller, de toute façon.
Bon, de toute façon.
Donc,
les gars, quand vous entendez toutes les histoires, parce qu'on en parle souvent dans l'after, c'est intéressant d'avoir votre avis. On parle souvent dans l'after des coulisses, de l'influence du PSG, du Qatar, de Nasser Al-Khelaïfi, du refus de financer par certains billets le foot avec Beansport, pour obtenir par ailleurs. Enfin, vous, tout ça,
est-ce que les calendriers dont on fait ce qu'on veut.
Est-ce que, honnêtement, en tant que supporter du PSG, ça vous intéresse? Ou alors, est-ce que vous en avez, mais alors, rien à cirer, parce que ce qui compte pour vous, c'est le terrain. Aymeric, pour démarrer.
Franchement, c'est dur de... On s'y intéresse. Hein. C'est normal de s'y intéresser. Après, c'est toujours pareil. C'est le gros club qui... C'est la locomotive du foot français. C'est pas normal. Ils ont trop d'avantages. C'est que les règles sont trop permissives. Si t'as des règles strictes... J'écoutais un débat où ça disait si on avait le droit à un report dans la saison, ou enfin s'il y avait des règles très claires... Le club, il pose son joker et dit on reporte un match. Sur le principe, ça s'entend. Là, le problème, c'est que, vu qu'il n'y a pas de règles, et que clairement le PSG est tout puissant, parce que s'il n'y a pas de PSG, il n'y a pas de Ligue 1. Même si la Ligue 1 progresse, que le spectacle est sympa cette année, s'il n'y a pas le PSG, il n'y a pas de Ligue 1. Donc, à partir du moment où on part de ce constat-là et qu'ils font ce qu'ils veulent, eh ben, tu leur accordes tout, parce que tu sais que si tu leur accordes tout, tu as une chance qu'ils aillent loin et que ça nous rende la Ligue 1 visible. Donc, le problème est plus de l'absence de règles, l'absence de poids des instances.
T'en penses quoi, toi, Jérémy?
Bah moi c'est pareil, je m'intéresse parce que j'en ai marre qu'on tape sur le PSG pour qu'on dise j'ai pas envie que en fait le PSG devienne un peu le Marseille de 93 qu'on se dise tout est permis avec Paris tout ça quoi.
J'ai envie c'est pourtant la vérité que tout est qu'ils contrôlent tout, ils cherchent à tout contrôler, c'est ça qui est terrible. C'est que j'aimerais moi ne pas avoir à souligner ce genre de choses. J'aimerais que le président soit plus ouvert et ne voit pas la vie que sous la forme d'une domination. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on est bien obligé d'en parler.
Maintenant, c'est vrai que dans l'histoire du foot français, dans l'histoire du foot tout court, t'as toujours eu un club dominant.
Et alors, ça veut dire que c'est bien?
Non, c'est pas que c'est bien, mais la comparaison que Jérémy fait, il dit, c'était Marseille dans les années 90. À un moment, ça a été Bordeaux.
Lyon.
Lyon. C'était Lyon année 2000, enfin.
Lyon année 2000, exactement.
C'est malheureux.
On avait les mêmes débats il y a 15 ans sur Lyon avec Jean-Michel Aulas, hein.
On faisait des reproches, en tout cas.
C'était
pas exactement les mêmes débats, mais on faisait des reproches.
Je pense qu'on n'était pas exactement dans...
C'est pas le même niveau.
Dans la même domination. Mais oui, oui, je comprends ce que vous dites, oui. Mais ça veut pas dire que c'est quelque chose de normal. Ça se passe pas comme ça dans les autres pays,
hein. Et je parlais plutôt du Marseille des... Marseille des magouilles, en fait.
Du Marseille de la corruption.
Voilà.
Bah, ça a parfaitement existé, bien sûr. Alors, ça n'est pas l'ordre des magouilles qui ont été révélés sur l'OM sont pas du tout les mêmes à Paris, mais quand ils font quand ils font toute leur histoire du report de calendrier ou quand au sein du conseil d'administration, ils font en sorte d'avoir plus de voix. Moi, ça m'emmerde. C'est quelque chose qui n'est pas de la corruption, qui n'est pas de je te mets une mallette pour.
C'est de l'influence.
Mais moi, ça m'emmerde. J'aime pas ces façons de faire là. Je pense que tu dois pouvoir faire autrement, surtout quand t'as autant de moyens, que t'es aussi puissant, et puis que surtout, comme disait Flo tout à l'heure, après des années où on pouvait les critiquer pour leurs projets sportifs ridicules, tu arrives sur les 15 derniers mois, parce que les 15 derniers mois, enfin, tu marches sur l'eau, tu voles, quoi. T'es juste fabuleux et toutes les décisions que tu prends sportivement et même dans tout ce qui est l'environnement, toi, je vois ton maillot, je pense au nouveau maillot qui est sorti, c'est extraordinaire.
Oui, parce que là, tu as un maillot historique.
96.
Voilà. Coupe des coupes. 96.
En fait, il y a un
de la finale.
Ce qui est dans l'évolution actuelle, ils ne sont pas prêts encore à aller jusqu'où demande Daniel, on va dire politiquement. En revanche, ils ont raté quelques occasions cette saison, avec notamment le report de Lens PSG. Par exemple, ça fait partie des occasions, des moments où, entre guillemets, ils auraient pu montrer que ils ne voulaient pas aller sur ce terrain-là, qu'ils étaient capables de gérer ça, et c'était le cas évidemment avec la profondeur de banc, avec leur budget. Et là-dessus, j'ai bien aimé à l'inverse la réaction de Pierre Sage, par exemple, qui a été très net, très clair pour dire que c'était un scandale et que c'était inacceptable. Et ça, c'est une occasion manquée. Je pense que, comme dit Daniel, ils en ont réussi, ils en ont marqué, on va dire, pour reprendre le terme footballistique, des occasions en termes de com aussi et de visibilité. Mais celle-là, ils l'ont ratée. Et celle-là, elle était quand même importante parce que. Même si Lens a finalement perdu des points ailleurs et avant, c'est dans l'image de la Ligue 1 de cette saison un peu formidable et assez sympa, c'était une occasion manquée. Ils ont encore des progrès à faire.
Alors à propos de la finale, on a confirmation aujourd'hui qu'il n'y aura pas de fan zone à Paris pour le match PSG Arsenal. Donc il y avait
ça c'est logique. Hein.
On va dire que la mairie voulait
c'est
le
malheureusement
faire.
Logique.
La préfecture a dit attendez, vous êtes bien gentils, mais c'est avec nous que vous devez discuter pour que ça se fasse. Le ministère de l'Intérieur ne voulait pas non plus que ça se fasse. Évidemment suite aux incidents de l'autre soir.
Je comprends pas bien.
Donc, pas de fan zone, mais a priori diffusion au Parc des Princes de la finale. Ouais. Ça c'était
l'année dernière, c'était fantastique c'était quand ils l'ont fait.
C'est plus facile à sécuriser sans doute, mais il y a un truc, c'est que l'UEFA a donc décidé de mettre la finale maintenant à 18h. On a compris que c'était pour des raisons de sécurité un peu partout, et tant mieux. À partir du moment où tu as cette mesure-là et qu'une fan zone, c'est aussi un endroit plutôt délimité, je me dis que si tu n'es pas capable de faire ce que les fans
Certains disent qu'une fan zone, c'est beaucoup plus sécurisé que de rien faire.
Bien sûr. C'est pour ça que je m'étonne de ça. On a vu des fan zones à l'occasion des différentes Coupes du Monde, je sais pas, d'Europe, qui étaient vraiment formidables et qui sont des rendez-vous à des endroits très clairs et donc normalement sécurisés. Alors après, moi, je connais pas les moyens de sécurité que ça demande d'avoir autour du parc plus d'une fan zone à Paris. Mais il me semblait qu'à cette heure-là et avec une ville comme Paris, ça me semblait être possible aussi.
Je pense que les forces de l'ordre sont assez sollicitées tout au long de l'année. On n'est pas obligé encore autour d'un match de foot. Je peux comprendre que les Parisiens, le contribuable parisien, on a un petit peu à la casquette à un moment des incidents en ville en permanence. Donc je sais pas comment ils vont canaliser, mais vu ce qui s'est passé l'année dernière, ils avaient verrouillé les champs pour laisser les gens venir et nous on était au balcon. Ce que j'ai vu ce soir-là, je pensais pas le voir un jour en France. Hein. C'était le Moyen Âge. Hein. Donc c'est mieux si on revoit pas, mais je pense qu'on va le revoir quand même.
Bon, et puis il y a la Coupe du Monde derrière, donc va y avoir un mois de juin chargé, peut-être aussi en fonction du parcours
et pour les forces de l'ordre,
l'équipe de France. Pendant que je vous tiens, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis, s'il y a un personnage du club, là je parle de terrain, hein, que vous voulez ressortir cette saison, ce serait qui? La Dembélé a été le meilleur joueur ce soir.
C'est Guevara. On dit qu'il choisit ses matchs, mais c'est vrai. Mais dès que ça compte.
Tu t'en fous qu'il choisisse les matchs. Mais quand il choisit les bons, c'est ça.
Alors, je vais faire mon romantique, mais je me rappelle Zidane à l'époque, les années de Coupe du Monde d'Euro, il faisait des saisons moyennasses, si je suis gentil. Par contre, il arrivait en pleine bourre à la compétition parce qu'il se préservait. Un Guevara, il s'est préservé, il a été blessé.
Oh, lui, il est pas à la
Coupe du Monde. Longtemps. Par contre, quand ça compte, dès qu'il y a besoin de quelqu'un, il est
quand,
hallucinant.
Quand il a été moins bon, quelle incidence ça a eu sur les résultats?
Aucune. Aucune. Et puis, ouais, il est hallucinant. Hein, quand on a des grands joueurs, comme Vara, comme Dembélé, comme d'autres, qui sont capables de se dépouiller, on a un Ballon d'Or qui sera à 100e, qui s'en moque.
Et puis il faudra, content. Je pense que tu l'as compris, mais il faut le redire. Enfin, ce PSG, il est très fort, mais quand on voit ce qu'il fait sur le terrain, cette impression qu'ils volent, qu'ils vont plus vite, qu'ils font, mais enfin, il n'y a pas de miracle. C'est aussi la condition physique qui fait qu'ils sont comme ça. Donc la préparation physique et donc le fait de s'économiser et de pas être à fond tout le temps. Ils prennent pas des vitamines, ils mangent pas du cheval tous les matins. Quand tu les vois sur le terrain, on a l'impression qu'ils vont à 2000 à l'heure par rapport aux autres. Bah, c'est aussi parce qu'il y a une prépa physique qui est parfaitement huilée et qu'il y a des mecs qui ont choisi leur match, il y a des mecs qu'on a reposé. Tout a été, je le dis depuis le début de la saison, scientifiquement préparé.
Ça aujourd'hui, fait 2 ans qu'ils font ça.
Aujourd'hui, tu peux avoir les meilleures intentions du monde, et Luis Enrique a les meilleures intentions du monde dans le jeu qu'il veut faire pratiquer à son équipe. Il a managé ça parfaitement dans le sens où il a eu l'équipe qu'il voulait avec les caractères qu'il voulait, et il a tout bien fait de ce côté-là. Prépa mentale, tout est au point. Après, pour que les mecs te redonnent autant physiquement, parce que je sais pas si on se rend compte de ce que donnent les Parisiens physiquement, c'est juste fou. Ils sont fantastiques.
Pour revenir à ça, la grande marche, bon, sur Guevara, je suis d'accord. Après, c'est assez simple puisque dans le système accepté par tout le monde et tous les joueurs, si tu n'es pas bon, même en Ligue 1, tu joues pas, tu sors rapidement. Donc, après tout, il n'y a pas trop de casse. Tu mets un autre joueur et ça se passe bien.
Non, tu mets pas un autre joueur et ça se passe bien. T'as des mecs dont tu peux pas te passer dans cette équipe.
Hein. Non, mais je parle en Ligue 1. Je parle donc.
En Ligue 1.
Oui, parce que dans certains matchs de Ligue 1, il a pas été à la hauteur.
Maintenant, on a plus de compo mystère. On dirait Guevara, quand on se faisait avec Guevara, faut qu'il soit au top pour que tu vois un PSG au sommet. Mais il y a la même chose pour Doué. Je sais pas qu'on disait Barcola ou Doué. Non, mais c'est Doué le titulaire. Il y a plus de mystère de ce côté-là. Et le milieu de terrain, si Ruiz, il est même à 80%, il joue.
Toi, Jérémy,
sans parler de Vitinha et Neres.
Ton personnage de l'année, c'est qui?
Ah, pour moi, c'est depuis 2 ans, c'est Vitinha.
Ah ouais, bien sûr.
Pour moi, c'est le moteur de l'équipe. C'est celui qui donne le tempo, qui le ralentit, qui contrôle le jeu. Hier, j'étais au parc. J'étais dégoûté parce qu'il n'a pas joué. Mais en tout cas, à chaque fois que je le vois, quand je peux aller au parc, c'est magnifique. Comment l'élégance qu'il a aussi. Fabien Ruiz, j'adore aussi ce joueur.
C'est marrant parce que je m'attendais à ce qu'un de vous deux cite Luis Enrique.
Non, mais Enrique, c'est le personnage central. Mais il n'y a pas de place au hasard. En fait, il a rendu tout professionnel à Paris. L'année dernière, tout le monde dit Barcola, je crois qu'il fait 72 matchs. Mais sur le temps de jeu, il est sur un temps de jeu moyen. Parce qu'il a calculé tous les temps de jeu, il a calculé tout. Tous les éléments du quotidien sont calculés. Tout est préparé. Donc oui, la clé de voûte, c'est Enrique Campos, c'est le schéma à deux. Mais
là où je trouve que ça a été impressionnant, et je le dis d'autant plus que moi, j'ai dit l'inverse à un moment de la saison, je pensais pas que ça irait au bout en Ligue des Champions à cause, on va dire, du système défensif, voire de Marquinhos, pour être clair, dans la défense actuelle. Et ce qui m'a le plus surpris dans le parcours de cette année, c'est les sessions et les séquences à Liverpool pendant 15-20 minutes où ils ont vraiment défendu comme des chiens, ou encore même contre le Bayern au retour, où finalement, à la fois individuellement et collectivement, ce défaut, même le gardien, cette façon, effectivement, sans revenir sur l'histoire de la touche, mais en tout cas sur le fait de le faire dégager loin et d'éviter, comme à Donnarumma, d'avoir les relances courtes à gérer, c'est plutôt cette adaptabilité à laquelle je ne croyais pas défensivement, pour tout dire, qui est pour moi la petite touche supplémentaire.
L'état d'esprit, la façon dont ils sont préparés physiquement et mentalement, a comblé beaucoup de ce qu'on pensait des lacunes. Moi, pour le coup, vraiment, le recrutement, j'étais sur la ligne du PSG, il n'y avait pas à recruter. Et après, oui, Marquinhos, je pense que tu as raison, hein, on le voit sur le terrain, parfois il n'y est plus trop, mais c'est comblé par sa personnalité, son caractère. Il est au-delà d'économiser, Marquinhos. Là, maintenant, c'est au compte-gouttes, quoi. On a l'impression qu'on le sort du terrain.
Sauf qu'il a joué le match hier,
on s'attendait pas à ce qu'il joue.
J'étais surpris. Aucun problème. Tout ça, c'est pensé.
Il a fait 13 matchs de Ligue 1, Marquinhos.
Justement, ça, c'est pensé.
13 matchs.
Ça.
Ouais.
Ça, c'est pensé.
Mais Marquinhos, c'est plus le même joueur, mais c'est plus le même leader non plus. C'est un moins bon joueur qu'il y a quelques années. Par contre, c'est devenu le leader du club. Absolument. C'est l'âme sur le terrain. Ouais. C'est lui qui commande. C'est le boss. On le voit à chaque arrêt de jeu. On le voit à chaque temps fort. C'est le repère. Moi, donc ils le mettent au frigo, ouais. Et dès qu'il y a besoin d'un leader, ils le sortent.
Et pour revenir à Luis Enrique, ce qui me frappe aussi dans finalement le côté non dogmatique dont qu'il montre, c'est que ils s'adaptent aux joueurs et à leur niveau de forme. Je pense à Marquinhos. Alors des fois, tu peux pas t'adapter contre Chelsea. Il a souffert parce qu'il y a eu de l'espace et il a vraiment galéré en vitesse. Mais en faisant en sorte de ne pas avoir à le mettre dans la situation où il va avoir de la profondeur à gérer. Et pour le gardien, j'ai expliqué tout à l'heure, il l'avait fait avec Donnarumma. En fait, tu t'adaptes aussi, on va dire, aux faiblesses.
Oui, il est là pour masquer les faiblesses de son équipe.
À mon avis, c'est aussi un signe d'intelligence plutôt que de dire, moi, je veux relancer comme ça et on va relancer comme ça. Tu vois, c'est aussi ça. Et peut-être que c'était pas le cas. Peut-être que lui-même a évolué, que moi, je le connaissais moins avant. Et on l'avait dit, beaucoup plus dogmatique parfois dans ses schémas de jeu. Donc, c'est aussi ça qui est, à mon avis, intéressant à décrypter dans ce PSG et qui fait que quand tu le vois défendre comme ça à Liverpool ou contre le Bayern, Daniel parlait de l'attachement que même d'autres personnes non supporters du PSG pouvaient avoir pour cette équipe. Je pense que ça, c'est aussi cette image du PSG. Il y avait le collectif, le fait que tu passes et que tu vas pas forcément marquer individuellement, mais il y a aussi défensivement cette solidarité, pour reprendre le terme, par rapport à Marquinhos, qui à mon avis séduit aujourd'hui en France.
Bon, merci les gars. Quand tu te balades dans Valence avec ton maillot, là, tu te fais chambrer un peu ou...
Non, pas du tout. Non.
Pas du tout.
Non.
D'accord. Merci d'être venu, Emeric, Jérémy. Et puis,
je peux faire une petite dédicace.
Oui, bien, vas-y.
Je vais faire une petite dédicace au club de l'US Montméran et au président.
Voilà, très bien. Vous êtes venu en force là.
Ah oui.
Très bien.
Qu'a cassé Georges Quirino. Hein.
Jérémy ?
Non. Non, pas du tout.
Pas validé ?
Si, je suis d'accord. Moi, j'y ai pensé tout de suite.
Ok. Bon, bah, 2-2.
Rennes, dans un instant. Gilbert,
oui. Quand même, je vais le faire aussi parce que tu sais, j'ai failli arriver à la bourre, mais ouais, grâce à Abdelkader, qui est dans la salle normalement, qui est le chauffeur VTC qui m'a amené donc à l'heure et je voulais lui dédier cette émission. fan de l'after.
Attends, raconte ce qui t'est arrivé là aujourd'hui là parce que il m'a mis un stress lui. C'est
pas possible. Ah oui, il a pas pris de marge aussi. Nous avec Daniel, on avait pris.
Alors écoute, il s'est passé un truc de dingue. Je suis parti une heure écart avant Daniel et Jean-Louis et je suis arrivé 2h30 après. Voilà. Le train a eu 2h30 de retard. On a été déroutés sur Lyon. On a changé de train.
Les gens ne voulaient pas que tu viennes à Valence. La SNCF ne voulait pas que tu viennes à Valence.
Et je suis arrivé à
21h50.
21h40 ouais à la gare 40 oui 40 et grâce à Abdelkader à 21h50 au pâté. Sinon ça sentait le pâté. Ah,
selon certains spécialistes, il a un peu bombardé sur la route. Voilà, c'est pas ce que je comprends.